Ces cinq journées de la commission d'enquête citoyenne ont, à notre avis, confirmé une complicité massive de la France avant, pendant et après le génocide, une complicité militaire, financière, diplomatique, idéologique, dont les attendus ou les premières conclusions de la commission vous ont rendu compte. Pour moi, le plus clair, c'est l'après. L'après ôte toute excuse, parce que si les forces militaires, diplomatiques et politiques sont immédiatement les alliés de ceux qui veulent continuer le travail, ça veut dire que pour elles, être ses alliés ne pose aucun problème. Et par conséquent, c'est une signature. Dès lors, il s'agit du plus grand crime français du XXe siècle. In vivo, le quatrième type d'arme de destruction massive a été expérimenté. Nous avions connu, pendant la guerre 14, les armes chimiques, l'arme nucléaire pendant la guerre 45. On sait les essais qui ont été faits en Afrique du Sud, notamment de l'arme bactériologique. Et là, on a inventé un type d'arme de destruction massive où on manipule l'humain par la peur et par la haine, et là, on broie l'humain. C'est d'un rapport coût-efficacité exceptionnel. On sait aussi la proximité exceptionnelle des stratèges français et des officiers rwandais les plus influents, au point qu'à certains moments, la mission reconnaît que c'était pratiquement l'armée française qui dirigeait l'armée rwandaise peu de temps avant le génocide, et le concepteur, comme on l'a rappelé, a été formé à l'école de guerre française. Patrick de Saint-Pierre, cet Exupéry, je le résume peut-être un peu caricaturalement, mais pas beaucoup, explique que la France a fourni le mode d'emploi ou la méthode du génocide, et c'est sans doute le moins. Le déclenchement du génocide résulte d'un coup d'État minutieusement préparé au Rwanda. La France ne pouvait pas ne pas être au courant de la préparation de ce coup d'État, puisque M. Henrich a rappelé qu'elle était la mieux informée au Rwanda et que la Belgique était au courant un mois avant. La doctrine de guerre révolutionnaire, guerre moderne, contrôle des populations, dont on nous a rappelé qu'elle était celle de l'armée française depuis la guerre d'Algérie, qu'elle s'est poursuivie en Amérique latine, etc., cette doctrine, pour pouvoir s'exercer au Rwanda, a nécessité une sorte de coup d'État en France pour se déployer en grand dans son laboratoire rwandais. Ce coup d'État, c'est la création du COS, du commandement des opérations spéciales, c'est-à-dire la capacité de l'élite de l'armée française et des officiers, de certains officiers très influents qui sont derrière, de s'autonomiser hors hiérarchie en se rattachant auprès d'un président de la République particulièrement complaisant envers ses thèses. Ce que nous avons enregistré durant la commission d'enquête citoyenne, parmi les témoignages, évoque des comportements du type de ceux qui ont été théorisés et mis en pratique durant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose d'abominable. Jamais je n'aurais pu soupçonner que l'armée française était capable de cela. Tout au moins, certains régiments, certains éléments de l'armée française. Cela pose un abîme de questions ou d'hypothèses. D'une part, on observe un lien entre une doctrine et un corps, plusieurs régiments qui portent cette tradition ou cette pensée ou cette doctrine avec le rôle de l'école de guerre. Si on examine maintenant rétrospectivement le nombre de tortionnaires et de criminels qu'a formé l'école de guerre, c'est quand même un sacré problème. De Gaulle avait réduit un peu l'empire de ses doctrinaires, mais il avait réussi à s'exporter et à se conserver en s'expatriant. Et puis d'ailleurs, De Gaulle avait recruté la plupart des penseurs de l'OAS, ou d'un certain nombre d'exécutants, pour les envoyer en Afrique. Ça rejoint la table ronde précédente, c'est-à-dire qu'on n'en voulait plus en France, ils avaient failli avoir la peau de De Gaulle, mais on les a envoyés en Afrique parce que là, ils ont été très efficaces pour mater les populations au moment des indépendances. Ce corps, donc, prend, avec l'assentiment de François Mitterrand, une place hors de proportion et hors de tout contrôle au cœur de l'État. Une fois son expérience monstrueuse réussie, il est capable de faire chanter les institutions. Jean-Paul Cruz nous en fait part et son livre est beaucoup moins insignifiant que l'on pense, avec l'histoire du corbeau qui publie régulièrement les contes de la Chiraki chaque fois qu'elle aurait l'intention de revenir sur ces questions. Pour moi, il y a une signature qui explique peut-être l'étonnement de Patrick de Saint-Exupéry. Je pense que, à propos du silence des politiques, je pense tout simplement, encore une fois, que l'on fait chanter tous les politiques les plus importants et que chaque fois qu'on les fait chanter parce qu'ils veulent bouger, ils donnent une signature, ils communiquent le fait qu'ils ont été obligés d'accepter ce chantage. Et cette signature, vous l'avez repérée, c'est des génocides au pluriel. Vous remarquerez qu'Alain Juppé parle le 16 mai 1994 du génocide au Rwanda. Un mois plus tard, il parle des génocides. Jacques Chirac, en juillet, parle des génocides. François Mitterrand parle des génocides. 10 ans après, alors qu'on se met à reparler de l'affaire du Rwanda, Dominique de Villepin parle de dégénocide. Dominique de Villepin n'est pas un imbécile, c'est sûrement pas ce qu'on peut lui reprocher. Pour moi, c'est tout à fait clair. C'est une signature. Vous me faites chanter et j'accepte parce que je reconnais que la puissance que vous représentez encore au cœur de l'État, même si c'est un réseau vieillissant dont certains sont assez âgés, cette puissance-là est encore capable de nous réduire au silence par les instruments de chantage dont elle dispose. Ces gens-là, ils ont été décrits de plusieurs manières. Il s'agit d'un réseau, un network, comme on dit maintenant, d'officiers haut gradés, avec des relais dans les grandes entreprises, dans la banque, la magistrature et dans la presse. Ces gens-là font l'éloge de Charles Pasqua et de l'anti-américanisme, et cependant, ils sont très proches des néocons américains, qui ne sont pas si néo que cela. D'ailleurs, ils ont de fortes complicités atlantiques, de fortes attaches atlantistes, et pour moi d'ailleurs, souvent, cette propagande anti-anglo-saxonne, ce syndrome de fachoda, c'est une propagande à usage subalterne. Ils sont très proches de ces gens-là, et ce qui encore m'a éclairé sur ce point, c'est que l'ensemble des trafics d'armes qui ont alimenté ceux qui commettaient le génocide passaient en fait par les réseaux de l'OTAN. On peut difficilement imaginer des trafics d'armes partant des aéroports anglais, belges, avec l'appui de soldats israéliens contre l'avis des États-Unis. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que la conjonction des institutions monarchiques de la Ve République et des progrès d'une sorte de communication à la Orwell est capable d'étouffer ce plus grand crime de la France au XXe siècle, ou du moins s'en croit capable. Et du coup, M. Pierre Brana, je me permettrai de vous interpeller. Je dirais avec beaucoup d'amitié que vous êtes l'un des 5 meilleurs parlementaires de ces 20 dernières années. Un homme éminemment honorable et courageux, dont nous avons suivi les combats exceptionnels à propos de Srebrenica, à propos d'elle, à propos de la Cour pénale internationale, et même durant la mission sur le Rwanda, où vous vous êtes battu au sein de la minorité. Et pourtant, j'étais très déçu de votre intervention d'hier. Parce qu'on ne peut pas nier que la mission d'information s'est arrêtée exactement aux portes de tous les éléments de complicité active de la France, que du coup, ce n'est pas vous, mais c'est le président, a pu se permettre de faire une communication sur le fait que la France n'était pas coupable. Et encore une fois, il s'agit du plus grand crime français du XXe siècle. Or, dès la fin 1994, on savait que la France était complice. Et il n'y a personne à l'étranger qui en doute une seconde. Donc, qu'une mission d'information parlementaire, 4 ans après, conclue à la non-complicité de la France, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas une question de progrès ou pas progrès. Il s'agit de quelque chose qui est déterminant et qui, en plus, met en cause les institutions de la République. Vous savez, il y a cette fameuse phrase du livre de Lindqvist qui conclut le livre de Patrick de Saint-Exupéry, je ne l'ai pas sous les yeux, malheureusement, mais justement, cette phrase dit « Tout est sous nos yeux ». Il suffit de regarder. Monsieur Brana, quand nous nous sommes rencontrés, vous aviez lu le livre « La France-Afrique », vous l'aviez annoté très soigneusement, et vous m'avez dit « Je sais tout cela, j'ai fait la guerre d'Algérie, et je connais parfaitement ces pratiques, et vous avez raison. Ces gens-là sont capables de faire ça. » Vous avez connu, pendant la mission parlementaire, la pression militaire. Vous avez parlé de manipulation, et même peut-être davantage. Vous et quelques autres ont évoqué une affaire Dreyfus, c'est-à-dire que la raison d'État, l'honneur de l'armée, l'emportait sur la vérité et la justice. Il y a cette phrase d'un officier, « Heureusement que la mission qu'il laisse a bien travaillé, sans quoi nous serions tous devant le TP hier d'Arusha. » Alors aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a deux camps. Ceux qui considèrent que la raison d'État doit protéger ce noyau factieux porteur d'une doctrine qui a des accointances avec tous les fascismes et qui est éminemment dangereuse pour la République, et ceux qui considèrent que le respect des victimes passées au Rwanda, mais aussi avec les mêmes méthodes au Congo-Brazzaville, les victimes présentes en Côte d'Ivoire, les victimes futures en Afrique, l'avenir de la démocratie en France impose de faire la vérité et de restaurer avec notre pouvoir.